Lorsque deux beaux enfants en pleine santé perdent précocement leur père, il en résulte d'ordinaire un malheur. Ces deux fils avaient déjà 4 et 5 ans quand Whitman quitta ce monde un mois de novembre par un après-midi de soleil et de brise. Ce fut une mort sans histoire et, pour tout dire, il ne laissa pas un immense chagrin après lui. Son épouse, la veuve, était une belle femme de caractère docile mais profondément égoïste. Elle n'avait jamais tourmenté son mari, mais elle ne l'avait pas non plus aimé outre mesure. Ce genre d'indifférence est plus excusable chez les hommes que chez les femmes dont une passion, même insensée, justifie et met en valeur toute existence. On doit tout de même excuser Madame Whitman qui, après tout, avait mis au monde 2 garçons aussi beaux que vigoureux. Dans la rue où se trouvait la maison délabrée à l'escalier de bois qu'ils habitaient, la blonde Madame Whitman, en vêtements de deuil, inspirait le respect à tous. Pourtant, au début de son veuvage, cette femme avait encore la taille fine et le regard enfantin. Disons qu'en tant qu'être humain, elle n'était ni bonne ni mauvaise. Ses 2 fils, elle les avait aussi peu embrassés que battus. Il paraissait de plus en plus évident qu'elle avait peu de choses en commun avec eux. Les garçons partaient jouer aux alentours. Ils étaient introuvables des après-midi entiers jusque tard le soir. L'âme de Whitman brillait dans leurs petits yeux noirs. Ils traînaient dans les greniers, reniflaient le contenu des vieux coffres pour chasser les chats. Ils les poursuivaient par les brèches des greniers, sur les toits, jusqu'aux parois enfumées des cheminées aux bouches flambantes. Tant que durait l'été, ils allaient se baigner dans la rivière et attraper les oiseaux de la forêt. Madame Whitman leur donnait à manger et du linge propre le samedi soir. Elle ne manquait pas de les accompagner à l'école lors des inscriptions. Du reste, elle menait une petite vie tranquille et s'engraissait calmement. 6 mois après la mort de son mari, elle fit la connaissance d'un employé de banque, un jeune et beau garçon, rasé de près, large épaule mais rose comme une jeune fille. Madame Whitman eut envie de lui et, malgré la fatigue que lui coûtait cet effort, elle lui fit du charme. L'employé l'accompagna dans ses promenades, lui rendit visite pour recevoir en échange du thé et des baisers. Et, s'il ne la quitta plus, c'était par indolence et lassitude. Les fils Whitman ne se souciaient guère de leur mère et de son amant. Ils étaient toujours affairés, toujours pleins de projets. Ils entrèrent au lycée. Leurs petits muscles se tendaient comme des fils d'acier sur leurs os grêles et solides qui s'allongeaient. Le travail scolaire était vite réglé en 1 quart d'heure au lever. L'école ne jouait aucun rôle dans leur existence. Leur attitude face à la vie reproduisait celle des grands seigneurs. Très tôt, sans effort conscient, ils ajustèrent le temps à leurs besoins. Dans un recoin du grenier, ils avaient aménagé leur petite cuisine de sorcier. Flèches, fusils, couteaux, pinces, cordes et vis étaient ici rassemblés, cachés et classés. Les soirs d'automne venteux, une fois leur dîner avalé, pendant que leur mère s'absorbait dans un roman allemand à couverture rouge, ils s'esquivaient doucement, à pas furtifs, et se mettaient à courir les rues, traversant la moitié de la ville. Ils préparaient des embuscades, lançaient une corde autour du cou des chiens errants et les traînaient jusqu'à la maison. Ils emmaillotaient la gueule de l'animal et l'attachaient à une planche. Leur petite lampe brillait dans l'obscurité humide du grenier comme la lueur lointaine du château maudit de la forêt. Alors les 2 garçons, excités, se mettaient à l'œuvre avec une lenteur circonspecte. Ils fendaient la poitrine du chien, épongeaient le sang, et tout en travaillant, ils écoutaient les vagissements de la bête impuissante. Ils observaient le cœur qui battait, prenant la petite mécanique chaude et frémissante dans leurs mains et la détraquaient en perçant les ventricules et les valvules. Le mystère de la douleur devint pour eux l'objet d'une fascination inépuisable. Parfois, d'un commun accord, ils se torturaient l'un l'autre en se frappant ou en se pinçant. tourmenter les bêtes prit chez eux l'allure d'une passion grave, élémentaire. Toute une légion de chats, de poussins, de canards périt sous leurs mains, soumise à des méthodes singulières, toujours évolutives. Personne n'avait conscience de leur trafic. Ils savaient se cacher avec précision et assurance, avec une perspicacité d'adulte. D'ailleurs, on ne faisait guère attention à eux dans la maison. Le premier étage était habité par un vieux fonctionnaire qui était rarement chez lui et une couturière qui employait 4 filles. Au second, en dehors des Whitman, ne logeait que le propriétaire de l'immeuble, un jeune homme, fils de l'ancien propriétaire, qui ne se souciait pas de la maison et de ses locataires. Au rez-de-chaussée, il y avait un verrier et un mercier. Ces magasins paraissaient déserts, personne n'y avait jamais vu de clients. Les fils Whitman pouvaient se réserver la maison à leur usage personnel. La petite cour crasseuse était constamment vide, le sumac solitaire qui trônait en son milieu et portait des bourgeons, des feuilles et des fleurs depuis tant d'années, percevait probablement que tout cela n'était pas bien. Mais la vie passait dans cette petite maison comme partout ailleurs. Parmi ses habitants, seuls les 2 garçons s'amusaient, attendaient avec joie le lendemain et même le surlendemain. Un soir de septembre, ils rentrèrent haletants, la figure montée en couleur. Ils traînaient derrière eux un hibou ligoté qu'ils avaient attrapé en grimpant dans les combles de la vieille église. Ils étaient lancés à sa recherche depuis toute une semaine. Leur plan pour l'attraper et le tuer était établi d'avance. Enfin la réussite. Ils sentirent dans leurs épaules toute la force d'un homme quand, galopant à travers les rues obscures, ils arrivèrent chez eux, les yeux brillants, leurs trophées dans les bras. Le hibou les intéressait depuis longtemps, sa grosse tête est pareille à 2 gros yeux. Dans sa cervelle se cachent de merveilleux contes anciens. Il vit au-delà de 100 ans, il leur fallait ce hibou, il le fallait. Enfin, ils le tenaient. 1 à 1, ils arrachèrent les duvets de sa poitrine, tout en observant les feux multicolores de la douleur dans les yeux du mystérieux oiseau. Puis, ils entourèrent de fils de fer la souche de ses ailes, ses pattes, son bec, et ainsi ligotés, ils le regardèrent longtemps en silence. Ils se dirent qu'au fond, cet oiseau était une maison où la douleur avait élu domicile, et qu'elle allait y demeurer jusqu'à ce qu'il l'achève. Mais où habitait-elle donc? Probablement dans sa tête. Ils décidèrent de le laisser là, pour la nuit. Ainsi, ce coucher serait magnifique et palpitant. En effet, ils se déshabillèrent tout excités, écoutant sans cesse s'ils entendaient quelque bruit venant du grenier. Ils sentaient leurs membres se remplir d'une élasticité, comme si la vitalité gaspillée de l'animal qui se débattait dans ses liens se coulait en eux. C'est ainsi qu'ils s'endormirent. Dans leurs rêves, ils traversaient ensemble de vastes champs sur de gigantesques chevaux blancs en une cavalcade déchaînée. Ils s'élançaient des cimes vertigineuses des montagnes, ils passaient à la nage des mers chaudes et sanglantes. Toute la douleur, toute la souffrance de la terre se tordait et hurlait sous les pattes de leurs chevaux. Au réveil, un beau matin ensoleillé leur souriait. Ils sautèrent du lit d'un pied léger. Ils réclamèrent à la bonne leur petit déjeuner, car Madame Whitman avait l'habitude de dormir jusqu'à 10 heures. Puis, ils se précipitèrent auprès du hibou et, cette fois-ci, ils l'achevèrent en 1 heure. D'abord, ils lui arrachèrent les yeux, puis ils lui fendirent la poitrine en libérant son bec pour pouvoir entendre sa voix, cette voix perçante jusqu'à l'os, épouvantable, dépassait l'imagination. Il fallut précisément pour cela hâter l'exécution et la mise en terre de crainte qu'on ne l'entendît dans la maison. Tout compte fait, ils étaient parfaitement satisfaits, récompensés de leur peine. L'après-midi, l'aîné sortit seul. Il avait découvert quelque chose dans une maison. À travers la vitre, il avait remarqué une fille à moitié nue, en train de se peigner, une chemise rose sur les épaules. Au coin de la rue, il fit demi-tour et regarda encore une fois dans la pièce. La fille se tenait maintenant au fond, la blancheur de son épaule brillait au soleil. Le garçon entra dans la maison, une vieille femme vint à sa rencontre. En même temps, au fond du couloir latéral apparut la jeune fille qui se peignait. Le garçon s'approcha d'elle, lui dit qu'il avait envie de la voir de plus près car elle lui plaisait beaucoup. La fille caressa tendrement le visage du gamin élancé en culotte courte. Celui-ci jeta soudain ses bras autour du cou de la fille et lui colla ses lèvres sur la joue. Pendant ce temps, autour d'eux, les portes s'ouvraient et des têtes de jeunes filles passaient dans l'entrebâillement. Puis elles se retiraient rapidement en silence. Au bout du couloir, une petite veilleuse bleue brûlait. C'est dans cette direction que la fille conduisait le fils Whitman. Ils baissèrent le rideau, et la lumière de l'après-midi virait au jaune dans la pièce parfumée. La fille se roula sur le tapis, puis se laissa embrasser et enlacer, immobile. Le fils Whitman pensa au hibou et brusquement il se demanda pourquoi tout ce qui était beau, excitant et merveilleux dans la vie était en même temps terrifiant, incompréhensible et sanglant. Cependant, il se lassa vite du jeu. Il se releva, déçu, et attendit un instant en observant la femme, les yeux écarquillés. Puis il prit rapidement congé, mais promit de revenir. Il demanda son nom à la fille. Elle s'appelait Irène. Il le trouva très beau et lui dit « Au revoir, madame. » Ce jour-là, les frères Whitman déambulèrent dans les champs jusque tard le soir. Ils ne parlèrent pas des événements récents. Le grand raconta que l'air était habité de créatures ressemblant à des êtres humains et qu'en soufflait une brise légère, on pouvait sentir leur corps flotter dans l'air. Ils s'arrêtèrent alors, les bras étendus, les yeux fermés. L'aîné prétendit que des femmes gigantesques au corps moelleux virent volter autour de lui, lui effleurant le dos et la poitrine. Quelques minutes plus tard, le cadet signala que lui aussi sentait les femmes. À la maison, au lit, ils parlèrent encore de ces femmes aériennes et ils laissèrent les fenêtres grandes ouvertes pour qu'elles puissent entrer. Et elles vinrent, effectivement. Elles glissaient dans la pièce sans aucun bruit, touchaient à peine la vitre de leur dos velouté et tout en flottant et nageant, elles s'étalaient sur l'édredon, sur l'oreiller auprès des garçons. Elles avançaient, la tête vers leur visage, puis reprenaient leur glissade par mouvements lents, oisifs et pourtant désinvoltes. Elles restèrent avec eux toute la nuit. Souriantes, elles se penchaient toutes ensemble vers les gamins, voguaient vers la fenêtre, puis revenaient en glissant vers eux, se couchaient sur eux, se pressaient contre eux. C'est seulement quand le jour pénétra dans la chambre avec ses rayons étincelants et chauds qu'elles s'enfuirent par la fenêtre, dans un flottement lent et rêveur, s'évaporant dans l'air frais du matin. Le lendemain, une chaude journée de mai, les deux frères allèrent ensemble chez la fille en sortant de l'école. Entrant à pas furtifs par la porte, ils la virent s'avancer au-devant d'eux, souriante, ébouriffée, éclatant d'un rire frais. Elle conduisit les Whitman dans sa chambre. Ils posèrent leurs livres, se pelotonnèrent sur le tapis et attirèrent la fille vers eux. Ils l'embrassèrent, la mordillèrent, la serrèrent dans leurs bras. La fille riait, la bouche et les yeux fermés. Après l'échange d'un regard, les garçons se mirent, d'un commun accord, à la frapper. La fille éclata alors de rire, la bouche grande ouverte comme si on la chatouillait. Les deux Whitman prirent position d'elle, la pinçaient, la serraient, la torturaient. La fille les laissait faire, haletante, sans bouger. Les garçons blottirent leur visage écarlate contre son peignoir de soie. Un peu plus tard, en ramassant leurs livres, ils dirent à la fille qu'elle était la plus belle de toutes les femmes. Irène leur répondit qu'elle les aimait aussi, mais que s'ils revenaient, ils devraient lui apporter quelques friandises ou des fleurs. L'aînée l'assura qu'elle serait entièrement satisfaite. La fille raccompagna les gamins à la porte et leur embrassa les mains. Après le déjeuner, ils s'enfermèrent dans leur chambre pour parler de la fille. Ils conclurent que l'expérience qu'ils venaient de vivre dépassait toutes leurs aventures précédentes, y compris la torture du hibou. « La vie ne vaut d'être vécue que pour cela, » déclara le cadet. « Voilà ce qu'on a cherché avec tant de peine, » constata l'autre. Par un bel après-midi de mai, ils partirent pour l'école, sans leurs livres. En passant devant la maison de la fille, ils s'arrêtèrent à la fenêtre. Personne n'apparaissait. Ils allaient repartir lorsque le rideau s'écarta. Elle passa la tête. « Vous venez demain à midi ? » demanda-t-elle, souriante. « Venez et apportez-moi quelque chose. » Elle leur fit un signe de la main, puis referma la fenêtre. En la voyant, les garçons étaient devenus tout rouges et leur cœur s'était mis à battre la chamade. « C'est des bijoux que nous lui apporterons. Un bracelet en or, ou des bagues, annonça, après une longue pause, l'aîné des Whitman. « D'accord, mais comment les trouver ?»« Mère en a. On n'a qu'à lui en demander. »« Mais elle ne nous donne jamais rien. » On va lui piquer la clé de l'armoire. »«
Les clés ?»«
Mais elle est là jamais. »« Elle a pourtant 4 bracelets en or et 7 bagues. » Sans compter les 3 qu'elle porte. Le soir, ils rôdèrent autour de l'armoire vitrée et passèrent en revue les bijoux de leur mère. Il y avait là 2 splendides bracelets incrustés de rubis et de perles. Ils demandèrent à Madame Whitman de leur montrer ses parures, mais la femme blonde au caractère entêté les chassa. Ses fils lui faisaient un peu peur. Elle les sentait très loin d'elle. Les garçons coururent à la rue pour y tenir un conciliabule. « On ne pourra pas lui demander, ça jamais. Elle ne nous donnera rien, c'est sûr. Il faudra casser la porte de l'armoire. Elle se réveillera, elle fera un foin de tous les diables. Et nous en serons au même point. Nous ne pourrons rien apporter à la fille. Elle ne se réveillera pas. » Leur cœur fut inondé de haine à l'égard de leur mère blonde aux yeux bleus, indolente et grassouillette. Ils auraient bien aimé lui infliger la torture à elle aussi. « Je vais casser une des petites vitres avec le manche de mon couteau, et il n'y aura pas d'autre bruit. Toi, tu vas allumer la lampe de poche pendant que je passe la main et prends les bracelets et la bague. N'emportant pas tout, mais si, tout. À quoi ça lui sert ?» Elle n'a qu'à rester là, sans rien et chialer. Ils se précipitèrent au grenier pour passer en revue leurs outils. Ils choisirent un ciseau, une pince, examinèrent la lampe, puis casèrent le tout dans leur poche. Ils redescendirent rapidement pour aller se coucher, mais d'abord, ils examinèrent l'interstice sous la porte de leur chambre et constatèrent qu'il faisait déjà noir dans sa chambre. En se déshabillant, ils décidèrent de ne s'y rendre qu'après minuit. Ils gardèrent leurs chaussettes pour éviter de faire craquer le plancher et se mirent au lit, bien éveillés mais calmes. Appuyés sur un coude, ils devisaient en chuchotant. Ils se disaient qu'à midi, en sortant de l'école, ils couraient chez la fille. Ils allaient enfouir les trésors dans le grenier et les emporter petit à petit. Au matin, ils nieraient tout catégoriquement, et si leur mère voulait les battre, ils se sauveraient. Ils imaginaient sa colère, ses larmes impuissantes lorsqu'elle ne trouverait plus ses bijoux, et ils s'en réjouissaient d'avance. L'idée qu'elle puisse se réveiller ne les effleura même plus. Puis ils se levèrent, se penchèrent par la fenêtre, plongeant dans la nuit tiède de mai. Les aboiements des chiens, le grincement des chariots qui scandaient la nuit n'accélérait pas le lent passage des heures. Lorsqu'enfin minuit sonna, ils commencèrent à se préparer. Ils allumèrent la petite lampe. Le cadet prit la scie, les pinces et la lampe. L'aîné, son couteau de poche à longue lame. C'était lui qui marchait devant. Assurés et calmes, ils se glissèrent furtivement par la salle à manger, puis l'aîné ouvrit la porte de la chambre de Madame Whitman. Elle ne grinça pas. Ils eurent un soupir de soulagement. Madame Whitman dormait paisiblement. Tournée vers le mur, on ne voyait que son large dos gras, couvert d'une chemise de laine. Ils se placèrent devant l'armoire. Le garçon leva le couteau pour briser la petite cloison vitrée. Il hésita quelques instants, puis donna un coup sur la vitre. Un fracas épouvantable éclata, comme si on venait de jeter une caisse pleine de verre du haut du premier étage. Madame Whitman se retourna, puis, s'appuyant sur un coude, ouvrit les yeux. Son visage exprimait la contrariété et une colère butée, mais aucun mot ne passa ses lèvres, car l'aîné des garçons bondit sur elle et lui enfonça le couteau dans la poitrine. Elle s'effondra et sa main droite battit l'air. Le cadet était déjà sur le lit pour lui maintenir les jambes. L'aîné arracha le couteau ensanglanté puis l'enfonça de nouveau. Ce n'était pas nécessaire car elle était déjà morte. Le sang ruisselait de sa poitrine, inondant l'édredon. « Voilà, c'est réglé, » dit l'aîné. « Maintenant, allons chercher les choses. » Ils sortirent les bijoux de la vitrine, les broches, les bagues, la montre et la longue chaîne en or. Calmement, ils disposèrent sur la table tout le trésor conquis, le classèrent et le partagèrent fraternellement. « Dépêchons-nous, allons nous laver et nous changer maintenant. » De retour dans leur chambre, ils se lavèrent les mains et jetèrent l'eau. Il n'était pas nécessaire de se changer, il n'y avait aucune trace de sang sur leurs vêtements. Puis ils revinrent sur les lieux. Le jeune Whitman ouvrit la fenêtre de la pièce du milieu et attendit son frère. Celui-ci verrouilla la porte de Madame Whitman de l'intérieur, sortit par la fenêtre et rejoignit l'autre fenêtre en passant par le rebord. Dans la nuit noire, un silence de mort régnait. Il fallait se presser, la cloche venait de sonner 1 heure et ils avaient l'intention de dormir encore. Ils se déshabillèrent, se mirent au lit et, morts de fatigue après toutes ces émotions, ils s'endormirent en quelques minutes. Le matin, la femme de ménage arrivait toujours précisément à 6h30. C'était elle qui devait les réveiller. Habituée à ce que Madame Whitman ne se lève qu'à 10h, elle évitait de passer dans sa chambre. Après le ménage dans la salle à manger, elle leva les garçons comme d'habitude. La toilette faite et le petit déjeuner avalé, ils décampèrent, le trésor dans leur poche. Avant même d'aller à l'école, d'accord. Il ne faut pas manquer les cours, il faut être à l'heure. Oui, surtout aujourd'hui. De toute façon, à 11h, ils vont nous rappeler à la maison, dépêchons-nous. La porte de la maison était grande ouverte. Ils ne croisèrent personne dans le couloir qui menait chez la fille. Ils entrèrent. Elle dormait, le visage écarlate. Ils lui ôtèrent sa couverture, l'embrassèrent, puis tirèrent de leur poche tous les objets précieux. Ils les étalèrent sur ses seins, son ventre, ses cuisses. « Tiens, voilà ce que nous t'avons apporté. Tout est à toi. » La femme émergeait lentement de son sommeil. Elle souriait. Elle serra contre elle les petits crânes durs des deux malfaiteurs, les remercia de leur visite et se retourna vers le mur. « Nous reviendrons aujourd'hui ou demain », lui annoncèrent-ils en guise d'adieu, et ils se précipitèrent à l'école.